Toujours dans la logique des regards croisés de la recherche française et japonaise dans les sciences juridiques, après la question des relations extérieures, nous allons voir la question des droits fondamentaux avec deux titres pratiquement comparables, assez proches. Et tout d'abord, Madame le professeur Tateishi de l'Université Osei à Tokyo, qui va nous parler des droits fondamentaux et de la bioéthique, les problèmes actuels en France et au Japon. Vous avez la parole, Madame.
Merci beaucoup, professeur Pierre Mondial, et aussi tous les participants d'aujourd'hui de me donner l'occasion de parler sur la situation des droits fondamentaux et la bioéthique au Japon. D'abord, je suis désolée sur le résumé. J'ai envoyé le résumé avec la collection, c'est-à-dire le résumé de version provisoire. Vous pouvez bien constater mes travaux de traduction en français. Alors, je m'appelle Hiroko Tateishi, le professeur de droit constitutionnel et de la protection internationale des droits de l'homme. Aujourd'hui, je vais traiter sur le rôle du droit en matière de procréation médicalement assistée, le choix entre droit et l'ordre public. Le développement de la procréation médicalement assistée, dite PMA, a profondément modifié la procréation. Au Japon, comme nous le verrons, les statistiques de 2012 nous indiquent qu'une naissance sur 27 a été réalisée par PMA, ce qui montre une forte démocratisation des traitements contre l'infertilité, un phénomène semblable peut-être observé à l'étranger. Ce changement rend urgent des réponses du système juridique concernant la procréation et la famille. Mais il existe un décalage entre les avancées des techniques médicales, d'une part, et les consciences des personnes, ainsi que la théorie des droits humains, d'autre part. Alors que les options offertes par les avancées scientifiques se multiplient, le droit est mis en demeure de trouver des réponses adéquates à ces nouveaux choix. En premier lieu, on ne peut séparer la relation entre la science et le droit de leur histoire philosophique et scientifique respective, propre à chaque pays, ainsi que de l'histoire du système de garantie des droits fondamentaux. En Europe, la science médicale rationnelle s'est libérée du jeu de la religion à l'époque de la Renaissance et des Lumières, alors qu'apparaissait le système moderne de garantie des droits fondés sur la liberté de conscience et la participation politique qui ont justement soutenu cette libération scientifique. Un des aspects de développement de la science et des droits de l'homme est qu'ils se sont développés conjointement. Cependant, l'utilisation politique de la science médicale, qui a été caractéristique de la Seconde Guerre mondiale, a réglé le problème de l'opposition entre science médicale et droits humains, et dans l'après-guerre, non seulement en Europe, mais internationalement, la question d'une limitation de la médecine par les droits humains s'est posée. En ce qui concerne la procréation médicalement assistée également, à la suite de la naissance d'enfants, la fécondation in vitro dans les années 1980, des problèmes médicaux semblables se sont posés. Dans un contexte de possibilité accrue de procréation médicalement assistée, jusque la médecine peut être répondre au désir d'enfants. La protection de l'individu dans un cadre médical, c'est d'abord le prérequis du consentement de la personne, comme indiqué dans le Code de Nuremberg. Par la suite, le mouvement de libération de la femme des années 1970 ont permis l'émergence d'un droit des femmes à disposer légalement de leur corps, principalement le droit à l'avortement qui s'est démocratisé. Mais en parallèle à cet indispensable droit à disposer de son corps, le contrôle des actes médicaux est exigé et on demande au droit et à la bioéthique d'en dessiner les limites. Si la bioéthique se définit comme une règle de conduite qu'on se fixe dans une société donnée pour affronter les problèmes et les dilemmes que produit le développement des sciences biologiques, le droit a pour rôle de protéger les normes et de dire comme elles doivent être au regard de la science qui a pour rôle de savoir. La pratique médicale est déterminée selon les interprétations de l'ordre public et de la notion de droit humain dans une société donnée par le choix de droit fondamental concerné, du détenteur de ces droits et de l'ordre public, donc de la protection ou du maintien d'une certaine entrée. À l'époque Meiji, le Japon a découvert en même temps la médecine importée de l'Occident, le constitutionnalisme moderne et les droits de l'homme. Toutefois, ce ne sont pas les droits de l'homme, mais les droits du sujet, qui ont été intégrés au système juridique. Après la Seconde Guerre mondiale, le serment d'Hippocrate, le Code de Nuremberg et la Déclaration de Helsinki ont été intégrés à l'enseignement médical. Et dans les années 80, le consentement éclairé s'est généralisé, les droits de patients ont été précisés. Pour autant, le Japon a manqué d'un moment historique pour interroger la relation entre droits humains et médecine. Ainsi, l'approbation des techniques médicales manque d'un point de vue qui embrasserait la confrontation entre les droits de l'homme et l'ordre public. En 2014, la première proposition de la loi sur le PMA, la proposition de PRD-PT, a été annoncée et la question de savoir comment la société japonaise établit les règles de la pratique médicale est aujourd'hui posée. Dans notre présentation, après avoir examiné l'état de la procréation assistée au Japon dans une première partie de notre propos, nous analyserons la proposition de loi PT du PRD qui légalise le don d'ovocytes et la gestation pour autrui en le comparant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant la JPA de ressortissants français dans des pays étrangers, avant de proposer en conclusion une réflexion sur la construction d'une législation nouvelle. D'abord, sur les excès de la PMA au Japon et les vides juridiques. Ces excès peuvent être vérifiés sous trois aspects. Le nombre d'établissements et de cycles de soins le plus important au monde. Le débat exigeant une législation sur le PMA au Japon se situe dans un contexte d'accroissement des établissements proposant de tels soins. D'après les statistiques internationales, le nombre de ces établissements au Japon est le plus élevé au monde. Plus exactement, en 2012, le rapport du Comité d'éthique des sages-femmes du Japon dénombrait 509 établissements par don de gamètes. En ce qui concerne le nombre de cycles de soins, à l'occasion, cycle signifie la pratique de PMA, à l'occasion d'un rapport publié en 2014 au congrès annuel de AAB, le Comité international de surveillance des soins de PMA affirme que parmi les 1 480 479 cycles constatés en 2009, le Japon a procuré 211 942, autrement dit le nombre le plus important. En 2012, et toujours selon le chiffre du comité d'éthique des sages-femmes, le Japon a pratiqué 37 953 fécondations in vitro, soit 3,8% des naissances, et 120 inséminations artificielles par donneur tiers. Depuis les premières naissances en 1983 au Japon, les chiffres cumulés de PMA sont de 341 750, et pour les IEDA, insémination avec donneur, dont les premières ont été réalisées en 1949. Maintenant, plus de 10 000 enfants ont été nés. Cependant, si les actes se multiplient, la réglementation juridique de ces actes est très en retard, et cela dans le monde entier. Selon une enquête de 2010 réalisée par le Centre de recherche internationale de la stérilité et portant sur 103 pays, 42 pays sont dotés d'une législation sur le PMA, y compris la France, et 26 de directives, et 35 pays n'ont ni l'un ni l'autre. Le Japon, comme les États-Unis, fait partie de pays ayant des directives, mais dans le cas du Japon, ce ne sont pas des directives administratives, mais des directives privées émanant des groupes de recherche. Deuxièmement, la relation parentale des enfants nés de JPA pratiquée à l'étranger, confrontée à l'ordre public. Il y a deux cas de procès au Japon qui ont concerné la relation juridique entre les parents demandeurs, dites parents d'intention, et les enfants nés par JPA pratiqués à l'étranger. Dans les deux cas, les familles requérantes ont eu deux jumeaux d'une mère porteuse américaine aux États-Unis, et lors de leur retour au pays, leur demande de transposition des naissances dont le registre a été rejeté. Les familles demandent donc enregistrement des naissances. Les naissances ont eu lieu dans les États où vivent les mères porteuses, et les cours de ces États ont rendu des décisions reconnaissant le statut des parents véritables ou requérants. Premièrement, dans une décision du 24 novembre 2005 de la Cour suprême américaine, a confirmé que la mère requérante est la véritable mère conformément à la décision de la Cour d'appel fédérale supérieure de Los Angeles, car les gamètes venaient de son mari et les ovocytes étaient les siens. La mère porteuse ayant seulement porté les ovocytes, fécondé puis accouché. La Cour suprême a confirmé le verdict, mais il n'a pas été publié. Et au Japon, la décision du 20 mai 1905 de la Cour d'appel d'Osaka n'a pas reconnu un lien de filiation avec la mère d'intention. La Cour japonaise a considéré que la loi de référence est la loi japonaise. Or, celle-ci dispose que la maternité est déterminée par l'accouchement et que le constat de JPA allait à l'encontre de la décence de l'ordre public, sa validité doit être dénoncée et nous ne pouvons accepter ces effets dans notre pays. La loi du Japon s'applique et la relation de filiation entre la personne qui accouche et les enfants ne peut qu'être que confirmée. Mais le bien-être des enfants doit être privilégié, intérêt supérieur de l'enfant. Et donc la voie d'une adoption des enfants par les plaignants X doit être examinée. Deuxième étape, la Cour suprême du Japon siégea en session restreinte le 23 mars 2007, a rendu une décision dans une autre affaire concernant un couple ayant utilisé les services d'une mère porteuse pour deux jumeaux et pour lesquels la Chambre des affaires familiales de la Cour régionale de Nevada a ordonné un certificat de naissance désignant les demandeurs comme les parents véritables. La Cour s'est basée sur l'article 118 de procédure civile sur la validité des décisions des cours étrangères pour estimer qu'une décision d'un tribunal étranger, lorsque celle-ci va à l'encontre des principes et valeurs fondamentaux de notre ordre juridique, va à l'encontre de l'ordre public défini dans cet article, et que le lien de maternité est interprété comme surgissant de l'acte objectif de l'accouchement. Elle a donc décidé que la décision de la Cour étrangère qui a reconnu que cet acte a été constitué entre des personnes que le droit civil ne reconnaît pas comme ayant un lien de filiation. Enfin, l'ordre public définit l'article 118, paragraphe 3 de procédure civile. Elle a donc refusé de reconnaître un tel lien de filiation avec les parents d'intention. Les commentateurs complémentaires de cette décision, tout en s'inquiétant de l'influence d'une reconnaissance de maternité sur les comportements, admettent que, du point de vue de l'intérêt de l'enfant, il y a possibilité de demander une procédure d'adoption exceptionnelle. Ces décisions traitent du problème de la reconnaissance des décisions de tribunaux étrangers, mais la décision de 2007, tout en reconnaissant la validité de ces décisions en étranger, en citant l'article 118 de la procédure civile, considère qu'elles vont à l'encontre de l'ordre public japonais. La décision de considérer que la reconnaissance de liens de filiation dans le cas d'une JPA va à l'encontre de l'ordre public au Japon n'est justifiée que par le fait que cette reconnaissance est contraire au droit civil. Et on peut considérer qu'elle conserve une neutralité vis-à-vis de la JPA en elle-même. En outre, la Cour suprême évite une définition sociale de la mère comme celle ayant l'intention de l'enfant pour une définition simple où la personne qui accouche est la mère, conformément à l'adage romain « mater semper certa est ». Mais la doctrine est partagée sur cette question avec le développement de la science médicale. En ce qui concerne l'enfant, rien n'est dit d'un droit de l'enfant à établir un lien de filiation, mais dans les avis complémentaires, la notion de bien-être de l'enfant est évoquée. La proposition de loi de PLD dite PT sur les actes médicaux d'aide à la procréation. Dans ce contexte, une équipe de Parti libéral-démocrate a publié une proposition de loi reconnaissant l'accouchement par tiers. Un certain nombre d'actes médicaux d'aide à la procréation spéciaux sont envisagés. Une insémination artificielle par des gamètes n'appartenant pas à l'époux de la femme qui accouche ou par des ovocytes d'une autre femme. L'insémination extra-utérine, la transplantation d'embryons et les autres actes médicaux utilisant des techniques médicales concernant la procréation telles que définies par des ordonnances ministérielles. En d'autres termes, la procréation par donneur ou porteur qui nécessite une personne tierce. Le don d'ovocytes et de gamètes pour les couples qui ne peuvent concevoir d'enfants soit du fait des gamètes de l'époux, soit des ovocytes de l'épouse. Et Je saute numéro 1 et numéro 2. Et ça, c'est l'explication de loi et conditions de loi qui pratiquent, qui réalisent la procréation médicalement assistée par le tiers. Alors, c'est un peu détaillé. Alors, je saute. Après, je saute et je recommence par la JPA. La JPA est réservée aux couples dont la femme, pour des raisons naturelles ou accidentelles, ne peuvent clairement pas concevoir pour cause d'absence d'utérus ou d'autres raisons. Deuxième raison, dont l'établissement de soins spécialement désigné par le ministère selon les procédures prévues par l'ordonnance. L'embryon conçu in vitro par la gamète de l'époux et l'ovocyte de la mère peut être implanté dans l'utérus d'une mère porteuse. De plus, en 2015, la proposition de la loi sur l'exception au droit civil du lien de filiation des enfants nés d'une PMA a eu pour but de faire des mères d'intention ayant eu recours à la technique de la JPA ou au don d'ovocytes, les mères biologiques et dans le cas de don de gamètes, des hommes les pères biologiques. Cette proposition de loi ne concerne que les PMA exceptionnelles faisant intervenir un tiers et ne s'interroge pas sur le principe qui permet de reconnaître le don d'ovocytes ou la JPA, deux points qui divisent le gouvernement et les universitaires au nom notamment du respect de l'intégrité de la personne et de l'individu, du statut juridique des ovocytes et des droits de l'enfant. Le problème éthique que soulève le don d'ovocytes et la JPA et les problèmes concrets des disparités économiques entre les femmes qu'il révèle sont autant de points qui ne sont pas traités par ces propositions. Alors que le débat public sur les ajustements à la notion juridique de parentalité n'est pas actif au Japon. Et on peut craindre que la loi ne reflète pas le consensus de la société. En outre, les questions de la période de conservation des ovocytes et de leur éventuelle destruction, celui du choix de l'avortement et avant ou après l'implantation des ovocytes fécondés et les questions qui en dérivent ne sont pas abordées, ce qui pourrait devenir problématique à l'avenir. Parce qu'au Japon, l'avortement est interdit par le code pénal. Ne serait-ce que parce que ces questions touchent à la vie, elles devraient être traitées scrupuleusement. La législation et la jurisprudence en Europe et en France sur le PMA. La proposition de la loi de PLD ressemble au système libéral de recours à la PMA que l'on peut observer aujourd'hui aux États-Unis. Au contraire, la France réglemente de façon stricte les recherches et la pratique des PMA par la loi de bioéthique, même si les acteurs sont consentants, elle interdit la JPA. Et je saute de premier point, caractéristique de la loi de bioéthique de 1994 en France, parce que les Français ça vient. Et je recommence. Et deuxième point, le jugement de la Convention européenne des droits de l'homme menaçant contre la France concernant le lien de filiation de l'occurrence avec leur enfant né d'une JPA dans un pays étranger. Et puis, d'abord, et au début, j'ai écrit sur le défait de cet arrêt, mais peut-être pour les Français, l'effet est déjà très connu Alors, je recommence par à la fin de cette phrase. Et la Convention européenne des droits de l'homme. La Convention européenne des droits de l'homme a rendu son jugement le 24 juin 2014 en considérant que la décision de la Cour de cassation de ne pas reconnaître la filiation entre la requérante et les enfants contrevenait à l'article 8 de la Convention. Et d'abord, sur le statut de la décision de la Cour californienne par rapport à l'ordre public. La Cour constate que cette approche se traduit par le recours à l'exception d'ordre public international, propre au droit international privé. Elle n'entend pas la mettre en cause en tant que telle. Il lui faut néanmoins vérifier si, en appliquant ce mécanisme en l'espèce, le juge interne a dûment pris en compte la nécessité de ménager un juste équilibre entre l'intérêt de la collectivité à faire en sorte que ses membres se plient aux choix effectués démocratiquement en son sein et l'intérêt des requérants, dont l'intérêt supérieur des enfants à jouir pleinement de leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Deuxièmement, le droit des parents, le droit au respect de la vie familiale. La Cour estime qu'ainsi, d'un côté, lorsqu'il n'y a pas de consensus au sein des États membres du Conseil d'Europe, que ce soit sur l'importance relative de l'intérêt en jeu ou sur les meilleurs moyens de la protéger, en particulier lorsque l'affaire soulève des questions morales ou éthiques délicates, la marge d'appréciation est large. De l'autre côté, lorsqu'un aspect particulièrement important de l'existence ou de l'identité d'un individu se trouve en jeu, la marge laisse à l'État et d'ordinaire l'estreinte. De plus, si l'absence de nationalité française est susceptible de provoquer un certain nombre de problèmes, la famille a pu s'installer facilement en France et il ne semble qu'il n'y ait des obstacles à leur vie familiale. La Cour estime que la situation à laquelle conduit la conclusion de la Cour de cassation en l'espèce ménage un juste équilibre entre les intérêts des requérants et ceux de l'État, pour autant que cela concerne leur droit au respect de leur vie familiale. Elle n'a donc pas retenu la violation du droit au respect de la vie familiale. Troisièmement, le droit des enfants, le droit à la vie privée, l'intérêt supérieur de l'enfant. En ce qui concerne les droits des enfants, selon l'article 8 de la Convention, comme la Cour l'a appelé, le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir des détails de son identité d'être humain, ce qui inclut sa filiation. Un aspect essentiel de l'identité des individus est en jeu dès lors que l'on touche à la filiation. Par ailleurs, même si l'article 8 de la Convention ne garantit pas un droit d'acquérir une nationalité particulière, il n'en reste pas moins que la nationalité est un élément de l'identité des personnes. La France peut prendre des mesures pour dissuader ses ressortissants à recourir à la JPA interdite sur son sol. Mais ne pas reconnaître la filiation des enfants, ce n'est pas seulement limiter les options des parents, il porte aussi sur le sort des enfants eux-mêmes dans le droit au respect de la vie privée, qui implique que chacun puisse établir la substance de son identité, y compris sa filiation, se trouve significativement affectée. Se pose donc une question grave de compatibilité de cette situation avec l'intérêt supérieur des enfants, dont le respect doit guider toute décision les concernant. De plus, le père a été prouvé comme étant le père biologique. Les parents ont le désir d'entretenir une relation filiale, Le fait de refuser la transcription de la naissance est une atteinte grave à l'identité de l'enfant et donc contrevient à l'article 8 de la Convention. La Cour européenne des droits de l'homme reconnaît qu'il existe de nombreuses interprétations du droit à la reconnaissance de l'identité de l'individu, mais par sa décision, elle établit clairement la relation filiale et met en avant l'intérêt supérieur de l'enfant que la Cour de cassation n'avait pas pris en compte. Cette décision exige de fait que les enfants nés d'une GPA illégale en France obtiennent néanmoins un lien juridique de filiation, ce qui a stimulé le débat en France sur cette question. Le gouvernement a renoncé à saisir la Grande Chambre et les diverses cours françaises se dirigent vers une acceptation de cette jurisprudence. Le Conseil d'État, dans ses avis sur les circulaires du ministère de la Justice du 25 janvier 2013 et de février 2014, a reconnu la validité juridique de ces arrêts. Dans ce circulaire, dans le cas d'enfants nés par une GPA à l'étranger, et même si ce contrat est nul du point de vue du droit français, si le père est français, le refus de reconnaître la nationalité française porte une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée de l'enfant et oblige à la reconnaissance de la nationalité de l'enfant. Cependant, même si oblige à la reconnaissance de la nationalité de l'enfant, nationalité, elle n'oblige en rien de transcription dans le discours des Français nés à l'étranger. Sur cette question, la Cour de cassation, dans son arrêt du 3 juillet 2015, a modifié son avis de 2011 selon lequel la non-reconnaissance de lien d'une filiation ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de ses enfants, et a finalement suivi l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Autrement dit, en France, il n'est pas légitime de refuser la transcription d'un acte de reconnaissance obtenu à l'étranger dans le registre de l'état civil pour le seul motif que l'enfant est né grâce à une GPA. La même décision précise que le lien de filiation de l'enfant né d'une GPA est reconnu à la condition que le père soit français. Cependant, les droits des parents aspirant à une GPA contreviennent toujours à l'article 16.7 du Code civil qui interdit la GPA et aussi à l'article 16.9 sur l'ordre public. Et sur ce point, la jurisprudence de la Cour de cassation est maintenue. La GPA est toujours considérée comme contrevenant à l'inviolabilité du corps. L'affaire Ménesson a été critiquée comme une ingérence de la Cour européenne des droits de l'homme avec le droit et les décisions juridictionnelles internes français, alors qu'au cours de la semaine précédente, l'arrêt Ménesson, le Parlement du Conseil d'Europe avait adopté une proposition de résolution condamnant la pratique de la GPA dans son rapport annuel sur les droits de l'homme, considérant la dignité humaine de la femme dont le corps et les fonctions reproductives sont utilisées comme des marchandises. Par suite, par son arrêt du 27 janvier 2015, la Convention européenne des droits de l'homme concernant l'affaire Pradisso et Campanelli contre Italie, qui mettait en cause le statut juridique de l'enfant né de GPA en Russie, a de nouveau invoqué l'intérêt supérieur de l'enfant, qui avait servi d'étalon dans l'affaire Ménesson. L'introduction d'une garantie des droits humains comme exception à l'ordre public international est aujourd'hui discutée dans un contexte d'augmentation de recours à la GPA. Et tout récemment encore, la France a été une nouvelle fois condamnée au regard de l'incertitude de sa législation sur les mères porteuses, affaire Foulon et prouvée contre France. La question se pose alors de savoir si on doit considérer que le GPA est contraire à l'ordre public parce qu'elle va à l'encontre du droit interne ou si l'on doit prendre en compte la protection des droits humains universels comme une exception de l'ordre public international. Alors, et comme la conclusion, la législation des PMA interroge nécessairement les relations entre le droit, l'éthique et la science. Comme nous l'avons écrit plus haut, le Conseil d'État considère que le rôle du droit est de protéger les normes et de dire comme elles doivent être. Et c'est ainsi que s'organise la législation française. Mais l'évitement de l'ordre juridique observé dans le cas de GPA et les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme qui privilégie les droits de personnes dans un contexte d'exigence de protection de nombreux droits et de maintien de l'ordre public, nous interrogeons sur comment construire l'ordre juridique de demain. Au Japon, adopter une législation sur le PMA est encore à faire, car malgré son étude depuis 2000 par des ministères, le monde universitaire et le monde médical, aucun projet n'a à ce jour abouti. Comme montrent les décisions de la Cour suprême, les PMA sont autant d'événements qui redessinent la vie, la procréation et les liens familiaux. Un nouveau paradigme que la loi et nos concepts juridiques ignoraient jusqu'à présent. Ce qui conduit le juriste à se replier sur des concepts d'ordre public. L'ordre public dans le Code civil ou dans l'article 118 de la procédure civile ou encore en droit privé international, l'ordre public international, sont des notions qui doivent être affinées dans leur relation avec les droits de l'homme. Quels droits fondamentaux doivent être protégés? Quel doit être le contenu de l'ordre public? Et c'est au droit lui-même que revient la délicate mission de répondre. Merci beaucoup.